Dieu est saint. Alors moi, ça me parle, hein, quand on parle de la sainteté de Dieu, c'est quelque chose qui nous élève, c'est quelque chose, on essaie d'imaginer la sainteté de Dieu, on a même du mal à se dire, mais qu'est-ce que c'est que la sainteté de Dieu? Je suis sûr que si on se disait, quelle est la définition pour toi de la sainteté de Dieu? On aurait tous une représentation différente, mais la sainteté de Dieu, ça nous dépasse, c'est tellement grand. Mais si on se met face à la, faut imaginer cette sainteté face à nous, comment on réagit? C'est ça finalement, c'est qu'est-ce que ça produit en nous? Comment ça nous impacte? Alors, le partage ce matin, c'est objectif royaume de Dieu. Notre objectif, c'est le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? La sainteté de Dieu. Il y a la gloire de Dieu qui déborde, qui nous envahit, et c'est impressionnant. Alors, on va lire un long passage. Soyez attentifs, parce qu'on va lire beaucoup de versets ce matin. Et on va tirer quelques conclusions. On va essayer de se remettre en question, de voir ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, Matthieu 7, versets 13 à 29. On a parlé plusieurs fois de ce passage-là, des trois premiers versets, mais on va essayer d'aller plus loin. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ça ce matin. Donc, entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, j'ai un câble au milieu qui me coupe les mots. Je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Ensuite, une petite parabole de Jésus. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison et s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leurs spécialistes de la loi. Les gens entendent Jésus, c'est Jésus qui parle ici, notre Seigneur. Et les gens sont impactés, il nous est bien dit, car il enseignait avec autorité, non comme leurs spécialistes de la loi. Ils entendent quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu. Jésus dit les choses précisément et il dit, voilà, c'est pas compliqué, il faut fonctionner comme ça, si vous voulez, quelque part, rentrer dans le royaume de Dieu. Notre premier paragraphe, on nous parle de cette petite porte, c'est pareil, il y a eu pas mal de prédications là-dessus, on va pas tout voir, mais finalement, on peut résumer ça dans le fait de ne pas être influençable. Il ne faut pas se laisser influencer facilement, mais il faut rester enseignable. Donc là, la limite, elle est fine. Qu'est-ce que c'est être influençable? Qu'est-ce que c'est être enseignable? Et alors, ensuite, on arrive au deuxième paragraphe, petit 2. Il va nous dire, voilà, il y a des gens qui vont prophétiser, qui vont vous dire des belles choses. Et puis ça, il faut vraiment vous en méfier, parce que parfois, c'est des gens qui se cachent en brebis. On parle de personnes, là, qui vont nous influencer, et qu'est-ce qui va se passer? On va être détourné de notre objectif, et notre objectif, c'est le royaume de Dieu. Et dans ce qu'on peut retirer là, Eh bien, c'est que les ronces, ça pique. Et il faut se souvenir de ça. Souvenez-vous, quand vous lisez ce passage, une ronce, ça pique. Qui s'est déjà pris dans les ronces? Moi, je me suis déjà pris dans les ronces. Est-ce que vous avez déjà marché sur un bord, en forêt, d'un coup, ah, vous étiez en short, vous n'avez pas pris le long pantalon, ça pique. D'accord? Et là, vous vous dites, j'ai juste touché une branche d'une ronce. Et vous vous imaginez dans les ronces. Une fois que vous êtes dedans, vous n'arrivez même plus à bouger parce que vous avez mal de partout et vous n'avez plus où aller. Et ça, c'est l'image que Jésus va donner de ces gens qui, avec des belles paroles, vont vous influencer, vont vous dire des belles choses, vont vous parler des grandes choses qu'il y a sur vous, de la bénédiction de Dieu, de la faveur de Dieu. Et finalement, vous êtes là, « Oh, Jésus, tu me fais du bien !» Et puis, en fait, c'est des personnes qui, quelque part, essaient d'avoir une emprise sur vous, c'est une influence. Et à un moment donné, vous êtes bien, mais à un moment donné, ça commence à piquer, vous commencez à être déçu, il y a des déceptions, c'est dur à vivre, et puis vous vous retournez et à un moment, vous ne savez plus bouger. Vous êtes rentré dans une mentalité, un raisonnement, vous ne savez plus bouger. Et vous vous faites mal. Vous êtes en discorde avec beaucoup de monde, et là, vous vous dites, mince, j'ai peut-être été influencé, je suis peut-être sur une mauvaise voie. Et c'est ce que Jésus veut dire. Et déjà à son époque, là, il parlait de qui ? Il parlait des spécialistes, qui enseignaient des grandes choses avec la connaissance qu'ils avaient, mais finalement qui égaraient le peuple. Et Jésus vise ces personnes-là, il vise les spécialistes de la loi. Ça va ? Donc on retient, les ronces, ça pique. Ça fait mal. Et ensuite, on va nous parler, on aime bien dire ça, on reconnaît un arbre au bon fruit, et un arbre doit porter du fruit. On reconnaît, on a l'impression que c'est quelque chose de facile. Mais qu'est-ce qu'un bon fruit ? Qu'est-ce qu'un mauvais fruit ? Et aujourd'hui, dans notre société, on ne sait même plus ce qu'est un bon fruit et ce qu'est un mauvais fruit. On a développé une culture intensive où on s'est habitué à certains fruits, certains légumes qui n'ont plus aucune saveur. Et quand on retourne chez le petit maraîcher qui fonctionne à l'ancienne, on regoutte le même fruit qu'on mange depuis des années, on se dit, mince, il y a du goût celui-là. Ça vous est déjà arrivé, ça ? Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein, les melons qui viennent d'Espagne et compagnie, parfois, ils n'ont même pas de goût. Hein ? Parfois, les pastèques, il y a du jus, mais ça n'a pas de goût. Alors, qu'est-ce qu'un bon fruit, qu'est-ce qu'un mauvais fruit ? Eh bien, c'est quelque chose qui te rassasie, c'est quelque chose qui va vraiment participer à la maturité, à ta maturité, au niveau spirituel, à la maturité spirituelle. Alors, si on met en contradiction ces personnes qui essaient d'avoir une influence sur vous, et la personne qui va réellement avoir un bon fruit, eh bien, vous allez voir qu'on arrive à ce verset, 2 Timothée 3, versets 14 à 17. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu, comme certains sachant de... Alors, quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu, comme certains sachant de qui tu l'as appris. Alors, on fait une pause. Ça veut dire que là, ici, Paul, il dit à notre petit Timothée, souviens-toi de ce que tu as appris, c'est important, et souviens-toi de qui tu l'as appris. Parce que, quelque part, c'est de celui, donc il parle de lui, hein. Donc, ce que tu as appris, il y a un bon fruit. La personne que tu as suivie, l'enseignant que tu as suivi, la personne qui t'a enseigné ces choses, elle portait du fruit. Et c'est ça qui est important. Et il faut pas que tu oublies ces choses-là, parce que tu peux à nouveau encore être séduit, même sur des choses que tu considères comme sûres et certaines pour toi. Depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage au vu du salut par la foi en Jésus-Christ. Toujours une question de salut. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alors on fait une petite pause et on revient à la prédication de la semaine passée. Toute écriture, donc là la parole de Dieu, est utile pour enseigner, elle est utile pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice. Mais tout ça doit être basé sur la bonté de Dieu. Et quand on a quelqu'un qui nous enseigne, quand nous on enseigne nous-mêmes nos enfants ou quelqu'un de plus jeune dans la foi, c'est toujours la question sur quelle base je me base pour pouvoir enseigner ces choses-là. Est-ce que mon attitude est une attitude de bonté envers la personne ? Est-ce que c'est dans le but de l'élever, de la faire grandir ? Ou est-ce que c'est juste dans le but qu'elle croit ce que je crois et qu'elle pense ce que je pense ? Vous me suivez ? Est-ce que pour vous c'est plus important que les gens pensent comme vous ou alors qu'ils grandissent dans leur foi ? Et alors là, on peut se retrouver à notre premier précepte d'être enseigné et on va utiliser la Bible, certains versets bibliques pour que quelqu'un comprenne quelque chose. Mais si l'intention de ton cœur est mauvaise, eh ben tu vas être comme une ronce pour la personne. Tu vas être comme du désherbant, on va dire. Tu vas à un moment donné éteindre, tu vas briser la semence éternelle. Et ça, ce n'est pas le but. Parce que tout doit être basé sur l'amour de Dieu. On a parlé de la bonté de Dieu la semaine passée, que Dieu est bon, il vient nous rechercher, il nous laisse l'occasion, mais sa bonté, sa miséricorde sont issues de son amour pour l'homme. C'est l'amour du Père. S'il n'y a pas l'amour du Père, bah, la bonté, elle ne sert à rien en fait. Tu peux être bon envers n'importe qui, et c'est très bien, tu es bon, ça fait partie de ton caractère. Mais quand cet amour, elle est puisée vraiment dans l'amour du cœur de Dieu, dans l'amour du Père, là c'est autre chose. Parce que c'est l'amour sacrificiel. C'est je vais tout donner pour toi, pour que toi tu puisses avancer, pour que toi tu puisses toucher ton objectif. Moi je le vois avec mes enfants, ils ont beau faire des erreurs, ils vont avoir leur réprimande, mais à un moment donné, l'amour revient. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'est-ce que je peux lui enseigner qu'il fasse grandir? Parce qu'il m'a tellement énervé ou elle m'a tellement énervé que je pourrais être dur et laisser une parole qui va renfermer de l'amertume. Vous me suivez jusque-là? Et tout ça, Jésus, en fait, il soulève ces choses-là dans son discours. C'est faites attention à ce que vous entendez, faites attention à ce que vous recevez, mais faites attention aussi à ce que vous disiez, vous dites. Alors, on arrive à « Seigneur, Seigneur ». Verset Cassandre, donc je n'ai pas les versets sur ça. Non, notre premier passage, à mon avis, ça doit être le 18. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Il ne faut pas confondre les fruits avec les manifestations. Il ne faut pas croire que les manifestations sont un fruit. Ça marche? On a vu beaucoup de miracles ici. Moi, je me souviens de cette dame-là qui a témoigné, complètement guérie d'une maladie en phase terminale, dans la louange. Parce que juste, on a dit, mais saisissez votre guérison. Et par la foi, elle a saisi sa guérison. Elle est revenue témoigner un an plus tard ici, en disant, bah, dans un moment comme celui-ci, j'ai été totalement guéri. Les médecins, voilà, on a vu des miracles. Est-ce que le fruit, est-ce que son miracle est un fruit? Eh bien, ce n'est pas un fruit parce qu'elle n'a même pas reconnu le Seigneur. Elle reconnaît qu'elle a été guérie. Elle reconnaît que c'est ce jour-là qu'elle a été guérie, mais elle ne reconnaît pas Jésus comme son Seigneur. Donc les miracles, les belles choses comme ça, ce n'est pas un fruit. Et on va voir plus loin ce qu'est un fruit. « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. » Et là, Jésus nous dit, à ce moment-là, on ne sait pas vraiment si c'est lui le rocher. Mais aujourd'hui, on le sait, que fondez votre maison sur moi, construisez votre maison. Il faut que vous puissiez construire votre vie sur moi. Et la Bible nous dit, si Jésus fait ta demeure en toi, Dieu fait sa demeure en lui. Et nous, on est quoi? On est co-héritiers de Dieu. On participe à la sainteté de Dieu. On est égal à Christ. C'est quand même impressionnant. Ça veut dire que si on construit sur lui, son tempérament, son caractère doit commencer à émaner de nous. C'est ça le rocher. Et la question, c'est que le fruit, c'est la construction. C'est qu'est-ce que tu as construit durant toute ta vie? Comment est-ce que ta vie a évolué? Comment aujourd'hui, quand on te regarde, est-ce que tu es stable? Est-ce que tu es mature? Est-ce que tu es solide? C'est ça le fruit. Ce n'est pas toutes les choses que tu auras faites, ce n'est pas toutes les œuvres que tu auras opérées dans le nom de Jésus. Ce n'est pas ça le fruit. Le fruit, c'est la longévité de ta foi en Jésus-Christ. Est-ce qu'à un moment donné, il y a une ronce qui t'a piqué, mais ah, tu t'es relevé. Ah, là, il y a un bon fruit. Vous voyez? Contre cette maison, elle ne s'est pas écroulée. Quand Jésus finit de prononcer ces paroles, la foule restait frappée par son enseignement. Pourquoi la foule était frappée? Parce que Jésus est en train de dire, les gars, maintenant, il faut vivre ce que vous entendez. Il faut réellement vivre ce que vous pensez. Il ne faut pas rester à l'état d'écoute et d'attente et de végétation et d'attendre qu'un truc spirituel se produise dans votre vie. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et on a Jacques qui va continuer. Et il va nous dire... Jacques 1, versets 22 à 21. Il va reprendre les mêmes paroles de Jésus. Mettez en pratique la parole, ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. On a tellement de faux raisonnements. On lit la Bible et on arrive avec tous nos pensées. Et il suffit, regardez un petit peu dans la Bible tout ce qui est versé sur la pensée. Vous allez voir que la pensée, elle peut complètement vous détourner de votre objectif. Et vous allez raisonner face à une situation. Vous allez vous dire « ok ». Et vous allez vous monter une philosophie par rapport à votre situation en vous confortant souvent dans votre attitude. Et ce que Jésus dit, il dit « la parole, elle dit ça, elle est tranchante, c'est blanc ou c'est noir ». Comment tu réagis par rapport à ta situation? Est-ce que tu choisis blanc ou est-ce que tu choisis noir? Comment tu la mets en pratique? Et là, ça nécessite une action de foi, c'est de dire, Seigneur, ok, je me rends compte que là, il y a quelque chose qui coince, bah, comment je fais pour passer? Je me rends compte de ma situation, comment je fais pour évoluer? Bah, viens et change mon cœur. Et là, tu vis quelque chose par la foi. Mais si tu te confortes, et que tu te dis, bah non, j'ai raison de penser comme ça, lui il m'a mal parlé, il n'est pas gentil, voilà, j'ai toutes les raisons. C'est des choses futiles, ça peut être des choses très futiles, où tu vas te dire, non, mais c'est tout, il y a tort. Elle a parlé de ça, Sandy, la semaine passée. Et c'est d'accepter que non, peut-être, mais c'est quoi la mentalité de Dieu? C'est pardonne. Ah bah mince, je dois pardonner. Et alors là, tu te dis, déjà, tu acceptes que tu dois pardonner, mais tu dis... Mais je ne sais pas pardonner. Ce n'est pas possible, c'est plus fort que moi. C'est trop dur. Et là, tu es dans l'abandon et tu dis, bah, Seigneur, maintenant j'attends le miraculeux. Comment tu peux m'aider à pardonner? Je sais que je suis incapable. Et là, tu rentres dans la prière et tu dis, Seigneur, change mon cœur. Et là, tu vis quelque chose par la foi. Parole? Vous êtes avec moi? Alors la question, c'est si vous pensez à votre vie aujourd'hui, et vous vous posez cette question, vous dites, Seigneur, qu'est-ce que tu as construit, qu'est-ce que j'ai construit sur ton rocher dans ma vie aujourd'hui? Et si vous faites un peu le comment on dit ça, le revenir en arrière, là, le mot anglais, come back, yeah, ok, le petit, voilà, vous revenez en arrière et vous dites, Seigneur, quand je t'ai reçu dans ma vie, est-ce que je t'ai reçu religieusement ou est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose de fort entre toi et moi? Est-ce que l'amour est né là? Est-ce que j'ai commencé à être passionné de toi? Et Seigneur, et là vous vous souvenez, ah Seigneur, j'étais fou de toi, waouh! C'était fort au début, hein, vous demandez à Pascaline sa conversion, ça va être puissant, vous tombez par terre. Hein. Ici, il y a des conversions fortes, c'est pas vrai Pascaline, ça t'a déménagé. Et là, elle s'est retrouvée face à Jésus, hop, et elle pourrait vous lister, mais il y a ça qui ont changé dans ma vie. Il y a eu telle position qui ont changé. Il y a eu des choses impressionnantes. Et là, vous voyez que, waouh, Seigneur, j'ai acquis de l'expérience. J'ai découvert que dans cette situation, tu pouvais être plein de bonté. Que là, bah, j'avais, c'est vrai, je vivais les conséquences de mon péché, mais tu m'as libéré. Aujourd'hui, je suis complètement libre. Et là, vous pouvez commencer à lister. Et c'est ce que notre cher Jacques dit. Souvenez-vous de ça. Parce qu'à un moment donné, il y a les épreuves extérieures qui vont venir en plus. Et Jésus ne nous a pas... Il ne nous a pas caché le fait que le vent allait souffler. Quand tu commences à construire ta maison sur le roc, le vent, il souffle. Jésus a dit, vous allez construire votre maison sur le roc et le vent, la pluie, les torrents vont se lever contre vous. Comment est-ce que tu vas faire pour résister? Bah, tu résisteras que si c'est basé sur moi, que s'il y a une bonne fondation. Et là, tu vas être dans l'épreuve, ah, c'est terrible. Et là, Anne, elle va dire, mais Seigneur, c'est dur en ce moment. Elle va se souvenir, ouais, mais là, t'as fait ça. Et puis elle va dire, mais Seigneur, je me souviens que t'as opéré ça dans ma vie. Elle va passer l'épreuve, elle aura encore grandi. Ça, c'est les épreuves extérieures, d'accord? Quelque part, c'est les plus faciles à passer, parce qu'on a notre historique. Et on va parler juste deux secondes, c'est des épreuves intérieures, qui ne sont pas des épreuves. Jacques, il va nous en parler, il nous dit ce qui est intérieur, ce n'est pas des épreuves, c'est des tentations. Jacques 1, 12 à 15. « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de vie. » Donc vous avez deux problèmes. Passer face aux épreuves, qui sont extérieures, mais supporter la tentation qui vient de qui? Elle ne vient pas de Dieu, elle vient de vous. Après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. À nouveau, l'amour au centre de tout. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je ne suis pas là pour te suivre religieusement, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas intéressant. Moi, j'avais 18 ans et j'ai dit, Seigneur, si c'est pour venir te suivre à l'église, suivre une religion, ça ne m'intéresse pas. Je veux qu'il se passe quelque chose en moi. Je veux qu'on me parle de la vie, on chante la vie. Seigneur, tu es la vie. Moi, je veux voir cette vie en toi. Ça ne m'intéresse pas de suivre des préceptes. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Ah ! Il y a un fruit de mort qui peut naître de mes pensées, de ce qui se passe dans mon cœur. C'est quand même impressionnant quand tu te rends compte de ça. Je le refais. Il y a un fruit de mort qui peut naître dans ta vie et qui commence dans tes pensées. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est terrible quand même. Dans mes pensées, déjà là, je peux prophétiser la mort sur moi. Je peux appeler la mort sur ma vie. C'est quand même incroyable. Mais chacun est tenté quand il est attiré. On est attiré, t'es attiré en toi. T'es attiré en toi, t'es attiré par la convoitise. Ah, tu veux une plus belle voiture cette semaine et tu veux encore un plus gros salaire et tu veux encore une plus grosse maison. Ça, c'est juste une convoitise. Ah, tu veux ceci comme ton voisin, machin, en toi, ça arrive. C'est pas grave si ça arrive en toi. C'est, à nouveau, à ce niveau-là, c'est pas grave. Tu as le droit d'aimer des choses, tu as le droit de machin. Mais à ce moment-là, c'est Seigneur, c'est quoi mon objectif? Mon objectif, c'est réussir dans la vie charnelle ou c'est objectif royaume de Dieu? Et là, tu te mets dans la prière et tu dis, Seigneur, c'est objectif royaume de Dieu. Bah, cette pensée, Seigneur, je te la soumets. Je la soumets. Tu vois que j'ai des désirs, tu vois que j'ai des aspirations, tu vois que je veux me réaliser peut-être dans ma carrière professionnelle, mais je te l'abandonne. Moi, je veux faire ta volonté parce que je sais que ta volonté, c'est que j'abandonne ce désir-là, que je te suive et que toi, tu vas me rendre ce que tu as besoin de me rendre, tu vas me donner ce que tu as besoin de me donner et tu vas me bénir comme tu as besoin de me bénir. C'est fort, non? Donc, on coupe court, hein? On prend position dès le début. Alors, ce qui m'a interpellé la dernière semaine par rapport à tout ça, donc on doit construire notre vie pour produire des fruits éternels, pour produire vraiment des choses. Et dans beaucoup de situations, dans notre mode de vie occidental, on est souvent on est détourné vraiment par des choses qui, pour Dieu, c'est pas important en fait. Mais pour nous, c'est tellement important qu'on met toute notre énergie, tout notre investissement de temps, d'argent, nos pensées y passent, nos nuits y passent, parce qu'on réfléchit. Et Dieu est là, il te regarde, il dit, mais combien tu perds de temps pour des futilités? Et ça m'a interpellé. Et je me suis dit, mais Alex, parfois tu réfléchis à des choses, mais c'est des futilités. Et Dieu, il va te reprendre sur ça, il va dire, mais c'était futile. Ça ne servait à rien, mais tu as perdu ton temps là-dessus. Et je réfléchissais et j'ai commencé à faire la liste des futilités qu'il y avait dans ma vie. Je me suis dit, ah, il y a ça. Oh là. Et j'ai commencé à voir, elle est où la volonté de Dieu? Oh. J'ai commencé à voir, ah Alex, tu ne te serais pas détourné un peu de l'objectif? Vous voyez les phénomènes qui peuvent se passer en nous. Hein. Et là, je me suis dit, il faut que tu te ressaisisses. Allez, et où l'objectif ? C'est futile. Et vous savez, la majorité des choses dans votre vie sont faites de futilité pour Dieu. La majorité. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas c'est des mauvaises choses en soi. C'est-à-dire que Dieu dit, t'occupe pas de ça, ça je vais m'en occuper, c'est secondaire. Occupe-toi des choses qui sont prioritaires pour moi, c'est que tu accomplisses ma volonté. Ces choses-là, elles vont suivre. En fait. Tu vas pouvoir réagir dans ces situations. Mais ce n'est pas le moment de perdre ton temps là-dessus. Ce n'est pas le moment de concentrer toute ton énergie là-dessus. Ça va être traité. Mais laisse-toi conduire. Et c'est comme ça qu'on on quitte parfois, on se retrouve dans les ronces et on se met dans les ronces nous-mêmes. Alors je me suis dit, Seigneur, on chantait ce matin, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, voilà, tu es saint, voilà, ça monte, on est là, on se projette, Seigneur, c'est vrai, combien est ta sainteté. Et on se dit, Seigneur, mais on a tout abandonné un jour pour toi. Est-ce qu'on a tout abandonné un jour pour lui? Quand je dis tout, vous n'avez pas vendu tout ce que vous avez, mais dans votre cœur, les choses n'avaient plus la même valeur. D'accord? Tu n'as pas commencé à vendre ta maison, on n'est pas des... D'accord? Mais vous avez dit, Seigneur, tout ce que j'ai, en fait, c'est plus l'essentiel. Tout ce que je suis, c'est plus l'essentiel. Mon caractère n'est plus l'essentiel. Mon besoin de s'accomplir, le besoin de s'accomplir, vous voyez, de réussir certaines choses, c'est plus prioritaire. Seigneur, c'est toi qui es prioritaire. Et je veux tout te donner. Je veux tout te donner. Et on chante ça et on dit, Seigneur, mais viens pleinement dans ma vie, viens me remplir, viens me machin. Et puis là, il se passe des choses en nous et on arrive à remettre de l'ordre dans certaines situations. Et quand on arrive à abandonner des choses qui, quelque part, c'était comme une ronce qui nous avait attrapé à nouveau, c'est comme si la ronce, elle arrivait, elle a chopé Jean. Jean, il commence à stresser, il n'est pas bien, parce que voilà, il y a telle situation. Dieu dit, mais attends, laisse tomber ça. Tu es en train de t'écarter, là. Laisse-moi gérer ça. Vous voyez, c'est ces situations-là, la pression, le doute, parfois l'amertume, parfois les déceptions. Toutes ces choses-là, elles peuvent te... C'est une ronce qui vient. Et là, tu te remets devant Dieu et tu dis, Seigneur, je me souviens de ça. Je me souviens de mon engagement au premier jour, là. Je veux me souvenir de ce que tu as opéré dans ma vie. Seigneur, je t'abandonne à nouveau ces choses-là. Je te remets à nouveau ma vie. Et là, je sais que tu vas mettre de l'ordre. Ça vous arrive ou il n'y a que moi?
Non, il n'y a que moi. Les gars, vous êtes déjà saints, vous.
Vous êtes déjà touché la sainteté. Alors, j'ai mis où ce verset? Alors, il y a une prière de... Je l'ai perdu. Alors j'aimerais juste prier pour ces choses-là. On va passer un petit temps dans la prière. Et on va essayer de mettre de l'ordre dans nos pensées, mettre de l'ordre dans tout ce qui agit en nous. On va mettre de l'ordre dans nos émotions. On va mettre de l'ordre dans notre volonté. Peut-être tu veux des choses très fortes. Il y a des gens, c'est des gens de volonté. Hein. Moi, je suis un gars de volonté. Hein. Si on fait un camembert dans mon âme, il y a beaucoup plus de volonté que d'affect ou de sentiment. Voilà. Je suis pas quelqu'un qui est affecté facilement. Il y a des personnes qui sont affectées facilement. Il y a des personnes, vous êtes peut-être dans la raison, tout en train de réfléchir. Et si tout n'est pas calculé, minuté, machin, vous n'êtes pas bien. Perte de contrôle, ça ne va pas. D'accord ? Vous voyez, donc volonté, raison, sentiment. Il y a des personnes, c'est la moindre, si je ne t'ai pas dit bonjour, tu vas penser que je pense quelque chose sur toi. Tu vois, c'est waouh, d'accord ? On a tous des failles comme ça dans notre âme. Et la question, c'est de se dire, quelle est ma faille ? Et Seigneur, est-ce que tu règnes sur cette faille ? Ou est-ce qu'à chaque fois, je monte un mur et je me protège ? Parce que c'est toujours des façons de se protéger. Avec Fred, on parlait lundi matin des complexes. On a des complexes parfois. On est complexé de quelque chose, ça peut être sur notre corps, ça peut être dans ce qu'on sait, dans notre connaissance. Et ces complexes, parfois, vont nous bloquer pour venir devant Dieu. J'ai une bêtise, si je suis là dans la louange et que je suis quelqu'un qui est complexé parce que je dis les gens me regardent, je vais avoir peur de lever la main, ça va être peut-être un frein pour entrer dans la louange. Pour Dieu, c'est une futilité. Pour toi, c'est une montagne. Mais pour Dieu, c'est une futilité. Pour toi, entends bien, pour toi, c'est une montagne. Pour Dieu, c'est une futilité. Mais tu chantes « Dieu est grand ». Tu chantes « Dieu est puissant ». Tu chantes « Dieu peut me changer ». Bah, abandonne. Vous suivez le raisonnement ? Donc, cible un peu dans ta tête ce qui peut être un obstacle, ce qui peut quelque part laisser Dieu de côté. Et tu dis, bah, Seigneur, ce matin, on ne veut pas perdre de temps, on veut avancer avec toi. Alors, Seigneur, on veut te remercier.